BW. Droits et libertés.
Droits et libertés, vous le savez, c'est le nom de cette émission qui, comme son nom l'indique, se préoccupe des droits humains. Ou plutôt des droits de l'homme, comme ils sont appelés encore dans la Déclaration universelle adoptée par les États membres des Nations Unies en 1948. Et là, homme s'écrit avec un grand H. Parce que ces principes sont posés comme universels, ils sont censés être reconnus par l'ensemble de l'humanité pour l'ensemble de l'humanité et régir les interactions humaine. Sauf que ces droits de l'homme, avec un grand H, constituent un socle qui est parfois ébranlé en ce début de 21e siècle par des individus ou, plus souvent encore, par des régimes autoritaires qui les piétinent et pourtant ils perdurent. Pour en parler avec nous, Xavier Dupré de Boulois, il est professeur de droit à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Est-ce qu'il y a eu une époque où les droits de l'homme ont fait consensus universel ?
Il y a eu effectivement peut-être un moment, plus que d'autres, qui a contribué à l'impression d'une espèce d'universalisation des droits de l'homme. C'est la fin des années 70, le début des années 80, qui correspondent à, on peut dire, à la fin des grandes utopies, à certains égards peut-être aussi le recul des religions, et qui ont pu faire penser que finalement les droits de l'homme allaient devenir un peu une nouvelle idéologie commune au monde à travers cette universalité de ce discours. Et peut-être que, je dirais, l'acmé de ce discours, c'est au moment de la chute du mur, cette idée qu'un nouvel ordre mondial émergerait, qui serait en partie notamment fondé sur les droits de l'homme.
Oui, parce qu'à cette époque, de nombreux principes de la charte de 48 ont été intégrés dans des législations nationales ou le droit international coutumier.
Oui, alors la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en soi, elle n'a pas de valeur juridique, mais il y a eu surtout de très nombreux traités. Alors, je pense notamment à deux pactes adoptés au niveau des Nations Unies en 1966 qui ont concrétisé ces exigences-là. Mais au niveau des Nations Unies, vous avez, en dehors de ces deux traités de 66, il y a un traité sur les droits de l'enfant, un traité sur la discrimination raciale, la discrimination sexiste, sur les mauvais traitements, les traitements inhumains dégradants. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés et les États ont ratifié et donc intégré dans leur législation ces exigences-là avec plus ou moins d'intensité, il faut bien le dire, hein, ça dépend des États. Mais oui, effectivement, il y a un corpus d'engagement juridique qui lie les États depuis les années 60-70 et qui est assez dense. Oui.
Dans la décennie qui vient de s'écouler, on a vu assister à l'émergence de nouveaux régimes autoritaires qui se sont mis à remettre en cause plus ouvertement les droits humains.
Il y a une remise en cause, on va dire, de la primauté, pas des droits de l'homme en eux-mêmes, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'États aujourd'hui qui nient les droits de l'homme. Mais disons qu'ils défendent les droits de l'homme à leur sauce. Il y a une critique qui vient des religions, parce qu'on a pensé peut-être que les religions allaient reculer, mais on a oublié que finalement 80% de l'humanité y croit encore, comme pourrait-on dire, ce qui a conduit finalement à la persistance d'un discours religieux qui est hostile, pas aux droits de l'homme en général, mais à certains d'entre eux, et notamment tous ceux qui marquent l'émancipation de l'individu dans la famille. Vous avez un deuxième discours qui, lui, repose plutôt sur la réfutation de l'universalisme des droits de l'homme, qui part du constat qu'effectivement ces droits ont été consacrés en Occident, qu'elle n'a pas empêché le colonialisme, hein, cette conception-là. Et donc, c'est une conception qui est très largement théorisée en Chine depuis une vingtaine d'années, hein, par référence au confucianisme. Il y a une espèce de salmigondi idéologique qui mélange un peu tout, mais qui conduit effectivement à valoriser une conception chinoise des droits de l'homme. Et puis c'est aussi un discours qu'on retrouve en Afrique, effectivement, mais la charte africaine des droits de l'homme est déjà imprégnée de cette idée-là, c'est qu'elle valorise peut-être beaucoup plus les solidarités, les devoirs de l'individu à l'égard de sa famille et de la collectivité. Et on peut dire en cela que c'est un peu différent de la conception, on pourrait dire, occidentale, qui valorise peut-être plus l'individu aux dépens de la collectivité. Et puis c'est vrai que dans le champ intellectuel, cette remise en cause de l'universalisme, bon, elle a été relayée dans les universités par les discours ou les études postcoloniales ou décoloniales qui ont entendu finalement mettre de côté ou en tout cas critiquer cette conception occidentale qui était une conception de domination. Ça, c'est la seconde critique. La troisième, ça reste la critique socialiste. Elle perdure, même si le socialisme ou le communisme a du pont dans l'aile dans la plupart des États, mais on perçoit encore aujourd'hui dans le champ intellectuel les discours d'intellectuels marxistes, plus ou moins marxistes, qui dénoncent encore les libertés bourgeoises et puis qui surtout dénoncent la valorisation des droits sociétaux aux dépens des droits sociaux.
Oui, c'est ça. Il faut d'abord se débarrasser de la lutte des classes pour schématiser avant que de penser à des droits individuels.
Voilà, c'est ça. Et c'est une critique qui reste encore assez prégnante. Puis il y a une quatrième critique dans le champ intellectuel, mais qu'on perçoit peut-être moins parce que c'est une littérature qu'on fréquente moins, c'est la critique qu'on pourrait dire écologiste. Pas toutes les écologies, hein, entendons bien, mais certains courants de l'écologie politique qui ont stigmatisé une conception de l'homme dans la société qui nous vient des Lumières. Donc là aussi, on a un courant qui réfute certains droits de l'homme au nom de la prise en compte de la nature et dans sa globalité.
Parce que l'homme voilà, se place au sommet de la pyramide, un petit peu voilà. Avec une nature qui lui serait soumise.
Soumise, absolument. Donc vous voyez, il y a quatre registres de discours qui conduisent à remettre en cause la primauté, finalement, des droits de l'homme. Mais après ça, bon, il y a beaucoup de nuances dans ces discours-là. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a plus personne, même il n'y a plus aucun État qui nie même l'existence des droits de l'homme. Mais après ça, chacun prétend les mettre à sa sauce en fonction de son histoire, de sa culture, mais y compris des États du type, je sais pas, l'Arabie Saoudite, la Chine, j'en ai parlé, des États qui sont quand même des États fondamentalement autoritaires, se prévalent d'une conception des droits de l'homme, mais qui s'inscrit en rupture avec celle qui est censée venir d'Occident.
Alors ça avait été présenté à un moment comme une victoire des droits de l'homme, du fait même qu'on ne peut plus être dictateur sans faire au moins semblant de se revendiquer oui. De certains principes.
Absolument. On ne peut plus dire aujourd'hui, je réfute les droits de l'homme, on nationalise les droits de l'homme. On va dire, on en fait une conception propre, mais on ne peut pas aujourd'hui assumer un discours, une idéologie consistant à dire que non, il n'y a pas de droits de l'homme, on ne peut pas mettre en avant les droits de l'homme.
Et pourtant, dans la pratique, les violations de ces principes sont monnaie courante, y compris
oui,
dans
sûr.
Les démocraties occidentales,
oui.
D'ailleurs, puisque
oui,
l'égalité juridique qui est prônée sur le papier, ne serait-ce qu'entre femmes et hommes, elle a mis du temps à être déclarée, reconnue, et ensuite, oui. Elle n'est toujours pas appliquée, et sans même parler du droit, par exemple, des étrangers dans les sociétés européennes, qui est toujours sujet à discussion.
Oui, non, bien sûr, ça reste, je dirais que les droits de l'homme restent un combat. De toute façon, il y a déjà une première chose, c'est que les droits de l'homme, bon, affirmés dans la grande majesté, ça reste quand même des droits, contrairement à ce qu'on peut penser, qui n'ont rien d'absolu. Ce sont des droits relatifs, parce qu'ils doivent se concilier entre eux. Il y a parfois des contradictions hein, entre les droits des individus, je sais pas, le propriétaire et le locataire. Et puis, bon, bah, effectivement, malgré les grandes proclamations, les pays occidentaux ont aussi encore leur part de zones d'ombre en la matière. Mais effectivement, ce sont des zones d'ombre, on les trouve surtout vers les marges. Quand je dis les marges, je m'entends, c'est-à-dire la question, effectivement, de la situation des migrants, mais aussi la situation des détenus, hein, puisque les problématiques des lieux de détention, elles restent aussi assez prégnantes dans la plupart des pays européens, notamment. Donc non, il n'y a pas, on n'est pas arrivé au bout d'un processus, c'est ce sur quoi on entend tendre, ou ce vers quoi on veut tendre, mais bien sûr qu'il y a aussi, chacun a sa part de soucis ou de difficultés en la matière.
Et au moment du Forum de Paris sur la paix en fin 2018, novembre 2018, celle qui était encore chancelière allemande, Angela Merkel, avait demandé à l'Assemblée, serions-nous aujourd'hui capables d'approuver, comme en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait un texte qui aujourd'hui pourrait naître et être adopté?
Aujourd'hui, est-ce que ce serait impossible? Pas forcément. La question, c'est ce qu'on met derrière. Vous savez, on proclame les droits, mais on entend bien qu'il y a des limites qu'on peut leur apporter, mais chacun les définit.
Qu'en est-il alors des devoirs ?
C'est là qu'on perçoit un petit peu la différence entre la conception, on pourrait dire, occidentale des droits de l'homme et d'autres conceptions. C'est que dans la conception occidentale, on mentionne peu ou pas l'existence de devoirs de l'homme. Hein. Dans la construction intellectuelle de ces droits-là, c'est quand même des droits fondés sur l'idée de contrat social. Dans d'autres conceptions, oui, l'idée de devoir, elle est très prégnante. Certains font qu'il y a des droits de l'homme qui, elle, mentionne de manière expresse les devoirs de l'homme par rapport à sa communauté. C'est quand même toujours souvent au nom des droits qu'on revendique dans tous les pays, y compris dans les dictatures. L'idée d'une société, les sociétés anciennes finalement fondées sur une légitimité essentiellement peut-être religieuse.
Ou de
cette
naissance.
Idée-là, elle a fondamentalement périclité et le pouvoir n'est légitime aujourd'hui que si au minimum il reconnaît des droits. Alors, des droits à l'individu, peut-être des droits aux minorités, des droits aux familles, enfin ça dépend après ça comment est-ce qu'on pense le titulaire de ces droits-là, mais dans la plupart des États du monde aujourd'hui, on peut pas revenir sur cet acquis-là, au moins sur le plan intellectuel.
Xavier Dupré de Boulois, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Un toit pour s'abriter, de quoi manger à sa faim, disposer de l'eau qui est nécessaire à la vie, un peu d'instruction et d'éducation, une activité digne de ce nom.
C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Xavier Dupré de Boulois, professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si vous souhaitez réécouter ou commenter cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Que sous ce même ciel s'applique une même justice. Quels sont les droits